Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alors, nous avons commencé l'Apocalypse. Nous savons que c'est une très, très, très longue série. Elle va bien durer au moins 2 ans toutes les semaines. Et en fait, je vous rappelle que nous avons avancé dans ce livre. Nous avions vu l'introduction au livre de l'Apocalypse. Pourquoi Dieu nous a laissé cette révélation, la finalité de la révélation. Et je vous ai montré un certain nombre de choses. Jean reçoit cette vision de Jésus glorifié. La vision de Jésus glorifié. Et ça, c'est au chapitre 1. Je vous ai expliqué différents types de visions. Je vous ai montré aussi ce qu'est une révélation. Et puis nous avons vu au chapitre 2 et au chapitre 3 en fait comment donc le Seigneur va révéler aux sept églises un message aux sept églises. Nous avons découvert au travers de cela que finalement, le Seigneur donnait un message à différentes églises et que ça concernait aussi l'église d'aujourd'hui. Donc nous avons déjà détaillé cela, je ne vais pas revenir dessus. Et puis d'un seul coup au chapitre 4, on voit que Jean va recevoir une autre vision. Le chapitre 4 s'introduit par « Après cela, je regardais et une porte ouverte dans le ciel. » Et là, d'un seul coup, nous avons étudié ce chapitre 4, cette vision extraordinaire du troisième ciel, tout ce qu'il y a dans le troisième ciel et tout ce que nous allons voir le jour où nous allons mourir physiquement. Je vous rappelle que tout ce que vous avez étudié ici, tout ce que nous avons étudié dans le chapitre 4, nous allons le voir. Le trône de Dieu, tout ce qu'il y a autour du trône de Dieu, d'abord le Père qui est dans le Fils qui est dans le Père, le Saint-Esprit qui est représenté là par les sept esprits de Dieu, nous l'avons vu, tout ce qu'il y a autour du trône, les quatre chérubins, nous les avons étudiés en détail. Et nous avons vu le symbole donc, de l'arc-en-ciel, de la mer de cristal devant le trône. Et je vous ai montré un petit peu tout ce que Jean essaye de nous décrire avec des mots humains. Sachant que les réalités célestes sont des choses que l'homme n'a pas vraiment de description pour expliquer, pour essayer de commenter. Et puis nous avons parlé des 24 anciens qui sont autour du trône. Nous avons essayé de découvrir qui sont ces 24 anciens. Et puis nous savons aussi qu'il y a la Jérusalem céleste. Nous avons comparé les visions de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et là, je vous rappelle que dans les visions de l'Ancien Testament, que ce soit Ézéchiel qui voit le trône, que ce soit Daniel qui a des révélations aussi, que ce soit le roi David aussi dans les psaumes, partout il voit le trône. Il voit les quatre chérubins, mais il ne voit personne autour du trône. Aucun être humain.
Et
nous le savons parce qu'avant la résurrection de Jésus, nous savons qu'il n'y avait pas de il y avait personne qui montait au troisième ciel à leur mort physique. Donc nous savons aussi qu'au ciel, il y a des archanges et des anges.
Nous avons étudié
tout cela. Et puis on arrive bien sûr au chapitre 5. Et là, au chapitre 5, il va se passer quelque chose de spécial. Il y a évidemment une description qui nous est donnée. Et il va y avoir un livre scellé de sept sceaux. En fait, il y a une question, c'est que ce livre, qui va pouvoir l'ouvrir? Et là, nous avions remarqué qu'à partir du chapitre 4, l'Église n'est plus sur la terre. Que ce soit du chapitre 4 au chapitre 19, vous ne verrez aucune mention de l'Église de Dieu. Parce qu'il s'est passé un événement. Et nous devons le comprendre parce que chapitre 5, ça va être le déclenchement de la tribulation. Et évidemment, avant de pouvoir aller plus loin, nous sommes en train d'étudier trois choses qui sont importantes pour bien comprendre ce schéma de la fin des temps. D'abord, l'enlèvement de l'Église, nous avions commencé la dernière fois. Ensuite, nous allons voir le tribunal de Christ pour nous les croyants. Et ça, c'est le tribunal de récompense. Non pas un tribunal pour dire est-ce qu'on va continuer d'aller au ciel ou pas.
Ce
n'est pas un tribunal pour le salut. Nous verrons que c'est un tribunal de récompense. Et la troisième chose que nous allons étudier pour mieux comprendre et continuer dans le livre de l'Apocalypse, c'est bien sûr les 70 semaines d'années de Daniel. Parce qu'à partir du moment où on va parler du déclenchement de la tribulation au chapitre 5, jusqu'à la fin de ces sept ans de tribulation, il va se passer plein d'événements décrits très précisément dans l'Apocalypse.
Mais
ça fait partie des événements prophétiques souverains que Dieu a révélé dans sa parole. Donc, sept ans doivent être exécutés. C'est vraiment une période particulière où Dieu va venir juger la terre. Le début de la tribulation, Dieu enlève sa bien-aimée. Il enlève ses ambassadeurs parce que je vous rappelle que quand il y a déclaration de la guerre, avant tout déclenchement de guerre, on enlève toujours son ambassade. C'est-à-dire les représentants du pays qui vivent dans le pays. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Lorsque Jésus va venir juger la terre, et là, on va vraiment parler de jugement. Parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de confusion entre les événements qu'on peut entendre aujourd'hui, de catastrophes naturelles, de toutes sortes de problèmes que l'on voit, et les gens à chaque fois commentent: ah, Dieu fait ça, Dieu juge, Dieu juge. Non, nous sommes dans le temps de la grâce, et dans le temps de la grâce, Dieu ne juge pas les hommes. Dieu a ouvert ses bras d'amour. Et quand il ouvre ses bras d'amour, c'est que pour qu'il y ait un maximum de gens qui rentrent dans le royaume de Dieu. Rappelez-vous que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume. Vous devez tout le temps penser cela. Un royaume que Dieu voulait amené sur sa propriété la terre, qui a été perdu à cause du péché d'Adam et Ève. Satan est rentré dans la gestion de la terre. Et la Bible est l'histoire de ce royaume qui va être à nouveau restauré. Ça a commencé avec la nouvelle naissance et qui va être instauré, c'est-à-dire installé sur la terre. C'est la fin de l'histoire de la parole. Déjà, vous comprenez bien cela. Ça vous aide à comprendre les événements des temps de la fin. Sinon, on ne peut pas comprendre grand-chose. Alors, nous avions commencé à voir cette première fondation indispensable pour aller plus loin, c'est l'enlèvement de l'Église. Une des trois fondations dont on a parlé tout à l'heure, pour mieux comprendre l'Apocalypse après, eh bien, c'est l'enlèvement de l'Église. Alors, l'enlèvement de l'Église, nous savons que c'est un événement très particulier. Et nous avions commencé à voir un certain nombre de choses. D'abord, nous avions vu qu'il y avait un mystère. Dans Éphésiens 3, Paul nous parle d'un mystère dont il a eu la révélation. Ce que Paul nous écrit dans Éphésiens 3, nous l'avons étudié. Il nous parle de la dispensation, c'est-à-dire d'un temps particulier. Ce temps particulier est ce qu'on appelle la dispensation du mystère. C'est-à-dire la dispensation de l'Église. Ce temps que Dieu a ouvert, que les prophètes de l'Ancien Testament ne voyaient pas. Personne dans les prophéties de l'Ancien Testament ne voyait le temps de l'Église. C'est pour ça que Paul l'appelle la dispensation du mystère, le temps du mystère. Mais Paul va dire, voilà ce que j'ai pu écrire en peu de mots, la révélation que j'ai reçue sur ce mystère. Le mystère de la dispensation du temps de l'Église dans lequel nous sommes. Et c'est là où Paul nous explique plein de choses. Qu'il a été le seul à écrire parce qu'il a été le seul à recevoir la révélation. Le mystère de l'Église, caché de toute éternité, nous dit Paul, mais révélé dans les temps où nous sommes. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, dans les épîtres, et particulièrement dans les épîtres de Paul, vous savez l'explication de ce qu'est l'Église, ouverture du royaume de Dieu, par la nouvelle naissance. Et Dieu est en train de se préparer un peuple de toute langue, de toute race, de toute ethnie. Et ça fait 2000 ans que ça dure. Parce que c'est avec ce peuple, c'est-à-dire vous et moi, que Dieu va venir instaurer son royaume sur la terre. Et nous régnerons avec lui pour l'éternité. Donc ça, vous devez le comprendre. Maintenant, ce temps, cette dispensation de l'Église va prendre fin quand? Quand Jésus va revenir. Et là, ce que nous avons étudié dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, nous avons vu qu'il y a deux retours de Christ. Jésus va venir une première fois. Pourquoi faire? Pour enlever son Église. Puis il reviendra une deuxième fois. 7 ans plus tard. 7 ans plus tard, à la fin de la tribulation. Mais là, il reviendra pour Israël. Donc, quand Jésus va revenir, il va se passer un événement sans précédent qui s'appelle l'enlèvement de l'Église. Donc, en résumé, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Jésus meurt à la croix. Lorsque Jésus meurt et ressuscite, Dieu ouvre une nouvelle dispensation. Je vous rappelle qu'une dispensation, c'est un temps particulier que Dieu choisit et il fait alliance avec un homme ou des hommes ou avec un peuple. Donc c'est un contrat. Nous sommes sous le contrat de la nouvelle alliance aujourd'hui en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu a ouvert la porte à n'importe qui vient dans ce monde et lui dit, Je t'aime. T'es pécheur. Tu mérites l'enfer. Tu n'es pas dans mon royaume. Tu appartiens au royaume de Satan. Mais si tu te repens de tes péchés, si tu crois dans l'œuvre de mon fils, tu crois qu'il est mort et ressuscité pour toi, alors je vais te gracier. Je vais pardonner ton péché. Je vais te faire naître de nouveau. C'est-à-dire que je vais recréer ton esprit. Tu vas devenir une nouvelle créature. Et tu vas entrer dans mon royaume. Ça, c'est la grâce. La grâce totale de Dieu. Mais Jésus, au bout d'un moment, va dire maintenant stop. Le Père va lui donner l'ordre. Le Père va lui donner l'ordre. Le Père va lui donner l'ordre de faire quoi ? De revenir chercher son église. Et là, cette dispensation de l'église va s'arrêter. Lorsque Jésus va ressusciter, il y a 2000 ans, l'horloge prophétique donc des prophéties pour Israël s'arrête. Car Dieu a ouvert une nouvelle dispensation que les prophètes de l'Ancien Testament ne voyaient pas. Dieu se concentre sur nous les païens pour que nous puissions entrer dans le royaume. Bien sûr, tous les Israélites peuvent entrer dans le royaume depuis ce temps-là. Mais beaucoup vont rejeter Jésus, on verra pourquoi. Et à la fin de ce temps de l'Église, Jésus va venir chercher son Église pour la protéger. Parce qu'après, les jugements vont descendre. Et nous étudierons ces jugements. Et Jésus prend son Église. Il y aura les 7 ans de tribulation. Quand l'enlèvement arrive, l'horloge prophétique pour Israël recommence pour 7 ans. Et je vous expliquerai cette histoire des 7 dernières années. Et à la fin de ces 7 dernières années, c'est là où Dieu va venir restaurer son royaume sur la terre. Ça sera l'entrée dans le millénium. Et quand Jésus va revenir au bout des 7 ans de tribulation, il va revenir pour Israël. Et il va venir sauver, délivrer Israël. Alors, nous allons continuer pour l'enlèvement de l'Église. Et nous allons donc étudier un texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Donc, je vous ai montré clairement pourquoi donc Dieu maintenant veut enlever son Église, car il enlève son ambassade. Déclaration de guerre contre les hommes. Dieu va leur montrer qui il est. Car je vous rappelle que Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu de jugement. Nous, nous connaissons beaucoup le Dieu d'amour aujourd'hui parce que Dieu nous a ouvert la porte de la grâce. Mais un jour, quand Dieu aura dit stop, ça suffit maintenant, les hommes vont connaître le Dieu du jugement. C'est ce que nous étudions dans l'Apocalypse. Là, nous allons regarder 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et nous allons commencer à partir du verset 15. Et nous verrons un autre passage dans 1 Corinthiens 15 en parallèle. 1 Corinthiens 15 tout à l'heure. Alors voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, ça c'est le premier retour de Christ, c'est l'enlèvement. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevé avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors ici, c'est un texte qui est particulièrement parlant concernant l'enlèvement de l'Église. Et en fait, Paul ici va nous montrer plusieurs choses. Une certaine chronologie des événements. Et en fait, l'enlèvement de l'Église va être, je dirais, morcelé en quelque sorte par plusieurs événements. Quand nous étudions cela, nous pouvons remarquer plusieurs choses sur ce passage. D'abord, il parle de quoi ? Il dit qu'il va y avoir la résurrection. Au verset 16, il dit « Et les morts ressusciteront en premier. » La fin du verset 16.
Il est
dit après, verset 17, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble. » Donc, on voit bien ici qu'il y a une chronologie dans les événements. Il y a une résurrection dont il nous est parlé ici. Ensuite, il nous est dit une transformation de ceux qui sont vivants. Et troisième chose, tous nous allons aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, tout ce qu'on appelle l'événement de l'enlèvement va être en trois étapes, en quelque sorte. Ça va être très court. Mais il y a trois facettes, trois aspects de l'enlèvement. Dans l'enlèvement. Le premier, c'est la résurrection des morts. Le deuxième, c'est la transformation du corps de ceux qui sont vivants et qui sont donc sur la terre. Et la troisième chose, c'est tout le monde à la rencontre du Seigneur dans les airs.
Donc,
enlevé, aspiré, dans les airs. Qu'est-ce que vous préféreriez ? Ressusciter d'entre les morts, c'est-à-dire d'être déjà au ciel quand ça va se passer ? Ou être enlevé, c'est-à-dire d'un seul coup être transformé et aspiré ? C'est une question qu'il faut se poser quelque part. Qui préférait ressusciter d'entre les morts ? Fait semblant de lever la main parce que sinon ils sont timides. Ça voudrait dire qu'on sera déjà mort et qu'on sera au troisième ciel en train d'attendre. Et que ça ne serait pas pour notre génération. On ne sait pas. Vous savez, l'enlèvement, l'Église l'a attendu depuis 2000 ans. Et c'est toujours la position que Dieu nous demande d'avoir et qu'il a toujours demandé à son Église d'avoir. Une position, je peux arriver à n'importe quel moment, soyez prêts. Ça a toujours été le mot d'ordre du Seigneur. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va se passer. Donc soyez prêts. Mettez votre vie en ordre. Soyez nés de nouveau. Sauvez. Tu ne sais pas quand ça va se passer. La position, depuis que Jésus est ressuscité entre les morts, c'est je peux revenir à n'importe quel moment. Donc soyez prêts. C'est l'image un peu qu'il y avait dans la Pâque. Dans la Pâque, le Seigneur avait ordonné aux Israélites de manger la Pâque, mais d'être habillés comme s'ils étaient prêts à partir tout de suite de la maison. Et toi aussi, tu dois être prêt à n'importe quel moment à partir de ta maison. Mais non, je ne te parle pas de ta maison dans un quartier. Je te parle de ta maison, ta chair, ton corps. Parce que ton être intérieur va partir. Et ton corps, c'est la maison dans laquelle tu vis. Ton être réel vit. Ton corps, lui, va rester ici. Ou va être transformé. Moi, je ne sais pas ce que je choisirais, franchement. C'est dommage que le Seigneur ne peut pas nous donner une vidéo, choix numéro 1, choix numéro 2. Hein. Si tu ressuscites entre les morts, voilà. Hein, comment... Mais la transformation, quand même. Ça va être quelque chose, hein. Ça va être quelque chose. D'abord, nous allons parler de la résurrection d'entre les morts. Alors, 1 Corinthiens 15, 52, Donc rappelez-vous bien la chronologie. Comment ça va se passer? Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Numéro 2, nous les vivants restés, c'est-à-dire l'Église qui est sur la terre, transformée en un clin d'œil. C'est-à-dire ton corps va être transformé en un clin d'œil. Troisième chose, tout le monde à la rencontre du Seigneur. Et après, je vais vous montrer où nous irons. C'est bien, on va voyager gratuitement sans payer de ticket d'avion. Ça doit être quelque chose quand même de monter sans une fusée là, tout là-haut. Hein. Vous savez, l'homme a toujours cherché à voler, mais il a toujours été obligé de prendre une machine pour voler. Un avion, il a inventé l'avion. Mais quand le Seigneur nous aspire, il n'y a pas besoin d'avion. Alors, 1 Corinthiens, on va lire un petit peu plus haut. Alors, à partir du verset 51, il est dit, voici, je vous dis quoi, un mystère. Ah, ce mot encore. Vous vous rappelez que mystère, ce que ça veut dire?
Une
connaissance de Dieu qu'il cache volontairement, qu'il ne fait pas connaître, donc ni aux hommes, ni aux anges, mais qu'un jour il révèle. Et c'est exactement là ce que Paul va nous dire. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais nous serons changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés.
Mukanya gato, mukanya nkako gukubitingohe, ahinzamba yiherezo izovugira, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubona, batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa.
Alors ici, Paul nous dit la même chose qu'il va nous dire dans Thessaloniciens. Ressusciteront, résurrection, et nous serons changés. Donc, les morts, eux, vont ressusciter. Et ceux qui sont vivants, ils vont être changés. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, il nous parle en un instant, en un clin d'œil. Et vraiment, le terme grec qui est utilisé ici, c'est vraiment en une toute petite fraction de seconde, entre guillemets. C'est-à-dire quelque chose qui se fait instantanément. Non pas quelque chose qui va durer dans le temps, une heure, deux heures, un jour, trois jours. C'est clair, cet événement va être soudain. Personne ne pourra dire « Non, je te retire, tu vas rester sur la terre. » Non, et c'est fini. Alors, imaginons quelque chose. Je vais vous donner des gros chiffres volontairement. Ce ne sont pas des vraies statistiques, mais c'est pour avoir une idée. Nous avons besoin d'idées dans nos têtes. Supposez, par exemple, qu'il y a 500 millions de personnes qui sont déjà mortes en Christ. Et supposez que sur la terre aujourd'hui, il y aurait 500 millions de chrétiens nés de nouveau. J'essaie de vous donner quelques idées. Je
ne
suis pas trop loin des chiffres, vous le verrez quand on sera au ciel, nous demanderons à Jésus et Jésus dira, le pasteur Olivier avait raison.
Okay. Bon, supposez qu'il y a
500 millions de personnes depuis que Jésus est ressuscité
qui
ont donné leur vie à Jésus, qui sont morts en Christ et qui sont au ciel. Vous allez me dire, mais pourquoi y aurait-il actuellement autant de gens qui seraient sauvés, qui seraient vivants sur la terre? Pratiquement que de gens qui sont morts en Christ. à peu près le même chiffre. Un jour, je me suis amusé à faire une petite étude sur l'accroissement de la population mondiale. C'est intéressant parce que vous savez, nous, en tant que chrétiens, on doit quand même avoir quelques idées. Quand on réfléchit sur l'accroissement de la population mondiale, on sait que Adam a été créé il y a 6000 ans. Que entre Adam et Jésus, il y a 4000 ans. Entre Jésus et nous, il y a 2000 ans. Oui, je sais, les puristes, quand je dis ça, me disent, oui, pourquoi vous dites qu'il y a 2000 ans? Mais non, il y a 2000 ans, moins ou plus, quelques années. C'est des chiffres.
Okay.
Alors, quand on regarde le début de l'histoire de l'humanité, Dieu commence avec un homme et une femme qui vont avoir des enfants et 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 ils vivaient très longtemps, donc ils avaient beaucoup d'enfants et ils voyaient leurs arrières. Adam a connu son arrière. J'avais calculé le nombre de générations.
Mais
il a vu vraiment beaucoup de générations.
Il a vu
ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-arrière. C'est normal, il a vécu 930 ans. Alors déjà, si vous vivez une centaine d'années, vous allez déjà voir vos arrière-arrière-petits-enfants. Mais si vous vivez 900 ans, ça va faire du monde. Heureusement, je ne sais pas s'il faisait des dots à l'époque, mais il y avait du monde. Alors, il va y avoir un accroissement de la population à cette époque-là. Mais nous savons une chose, c'est que d'un seul coup, il va y avoir rupture de cette croissance. Rupture, c'est-à-dire,
nous pouvons dire que
avec Noé, parce que vous savez que Dieu a envoyé le déluge, et que le déluge, et bien à partir du déluge, Dieu va recommencer l'histoire de l'humanité avec une seule famille. Et le déluge s'est passé, je ne sais plus, je crois 1600 et quelques années après Adam et Ève.
Donc,
sur les 4000, il y a déjà 1600 où on a pratiquement remis le compteur à zéro. Donc, il y a 2400 ans où vraiment, à partir du déluge jusqu'à Jésus, la population mondiale va pouvoir grandir sans qu'il y ait à nouveau une remise des compteurs à zéro. Dans ces 2400 ans environ, je donne des dates approximatives, on estime que à l'époque de Christ, il y avait environ 350 millions d'habitants à 400 millions d'habitants sur la Terre. Imaginez-vous, même si on dit 400 millions d'habitants, ça fait un peu plus que la population des États-Unis. Ça fait même pas la moitié de la population d'Afrique. Ça ne représente plus grand-chose par rapport à aujourd'hui. Ce qui est très étonnant aussi, donc on a à peu près 350 à 400 millions d'habitants sur la Terre au temps de Jésus. Donc ici, on a à peu près 350 à 400 millions d'habitants, donc après 4000 ans d'histoire de l'humanité. On estime qu'à peu près les deux tiers de la population à l'époque de Jésus vivaient dans tout le bassin méditerranéen. Il y avait énormément de population autour de la Méditerranée.
Afrique
du Nord, dans le Moyen-Orient, et tout le sud de l'Europe.
no mu majefo yo muri mu Buraya.
L'Amérique était complètement, quasiment vide de personnes. L'Australie, c'est la même chose. Et tout ce qui était Chine et Inde. Donc, comme je vous le disais, il y a un certain nombre d'endroits où il n'y avait quasiment aucune population. Et d'ailleurs, ça a duré assez longtemps. Donc, en fait, quand on continue d'étudier l'accroissement de la population, on s'aperçoit que même à la fin du 19e, au début du 20e siècle, on a une population qui a atteint, une population mondiale qui a atteint environ 1 milliard 500 millions d'habitants. Et donc c'est pas très loin, ça fait un peu plus d'un siècle pour nous d'ici. Sur 6000 ans d'histoire de l'humanité. Et d'un seul coup, dans le 20e siècle, il y a eu une multiplication phénoménale de l'accroissement de la population. Aujourd'hui, on est à pratiquement 7 milliards d'êtres humains. Et il est évident qu'il y a eu beaucoup plus de gens sauvés au XXe siècle et au début du XXIe où nous sommes que ce qu'il n'y a pu y avoir dans les autres siècles. De 19 siècles d'histoire de l'Église, eh bien, il y a eu moins de personnes qui ont été sauvées que même dans un siècle. Le 20e siècle a été d'une immense moisson. Au niveau de l'accroissement du nombre de personnes qui ont été sauvées et qui sont mortes en Christ. Et aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de gens qui sont nés de nouveau. En nombre de personnes. En nombre de millions. Qui ont reçu Jésus comme sauveur personnel. Qu'il n'y a jamais eu autant de personnes que dans toute l'histoire de l'humanité. Le nombre aujourd'hui est le nombre le plus important qui existe et qui n'a jamais existé depuis que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Donc imaginons, si Jésus revenait aujourd'hui, d'un seul coup, vous auriez, supposons, on se donne un chiffre juste pour avoir une idée. 500 millions de tombes. 500 millions de tombes qui s'ouvriraient. Vous savez qu'il y a même des tombes qui sont sous des maisons. Il y a des tombes qui sont partout. Il y a même des tombes qu'on ignore complètement. Et ces tombes vont s'ouvrir. Et ces personnes-là vont ressusciter. C'est la première phase de la première résurrection. Nous verrons que nous pouvons avoir des explications sur les résurrections. Et particulièrement sur la première résurrection. Qui est la résurrection des justes. Nous pouvons l'expliquer seulement si on parle de phase, première phase de la première résurrection. Nous verrons qu'il va y avoir une deuxième phase de la première résurrection. Ça sera à la fin de la tribulation. Parce que pendant la tribulation, il va y avoir des gens qui vont recevoir Jésus. Mais nous verrons que ce sera souvent au prix de leur vie. Et même dans le millénium, il va y avoir des gens qui vont recevoir Jésus. Et qui vont mourir. Et nous ne pouvons qu'expliquer tout ça sur la fin des temps, si seulement nous disons qu'il y a des phases de la première résurrection. Et quand on parle de résurrection, on parle bien effectivement de gens qui sont morts. Et donc, leur esprit et leur âme est bien quelque part. Et effectivement, leur esprit et leur âme Pour ceux qui meurent, vont auprès du Seigneur. Nous le savons, nous l'avons étudié. La Bible est très claire. Celui qui meurt en Christ aujourd'hui va auprès du Seigneur. Et nous savons très bien qu'à partir du moment où nous parlons d'être auprès du Seigneur, Jésus est à la droite du Père. Et nous savons que c'est au troisième ciel, là où ça nous est décrit si bien dans l'Apocalypse chapitre 4. Donc tout cela c'est très clair. Alors maintenant Paul va nous expliquer qu'est-ce qui va se passer à la résurrection. Donc d'abord il faut que vous compreniez une chose, c'est que votre corps ne peut pas voir la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas, avec votre corps, voir Dieu face à face. La Bible est claire là-dessus. L'homme ne peut pas vivre dans son corps, vivre dans biologiquement, et voir Dieu. Parce que notre corps a péché. Et donc, il a été corrompu par le péché. Et ce qui est corrompu par le péché, ce qui est ce qu'on appelle corruptible, eh bien, ne peut pas hériter de l'incorruptibilité. Et nous allons parler dans quelques minutes de ce mot incorruptibilité. Parce que c'est quelque chose qui est très précis dans la parole de Dieu et que, dont la Bible nous donne vraiment pas mal de renseignements. Alors, au verset 35
d'1 Corinthiens 15,
Paul va nous expliquer un certain nombre de choses. Alors, il est dit au verset 35, 1 Corinthiens 15, on va étudier. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? On va lire les versets suivants, là, on va défiler les uns après les autres. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelques semences. Verset 38, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il lui donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Verset 40, il y a aussi des corps célestes. Regardez bien ici, regardez bien ici. Il va commencer à faire des comparaisons. Il y a des corps célestes, mais il y a aussi des corps terrestres. Mais autre est l'éclat. Regardez bien ici, le mot éclat. Des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Verset 42, ainsi en est-il. Regardez bien, il fait des comparaisons ici. Ces comparaisons nous permettent de tirer des enseignements, sans aller trop loin d'ailleurs, il faut faire attention. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Pardon. Le corps est sonné corruptible, il est ressuscité incorruptible. Verset 43, il est semé méprisable, il est ressuscité glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps, regardez bien ici l'expression, corps spirituel. Ah, nous allons insister sur ces expressions-là. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Verset 45, c'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, ou ce qui vient en premier, si vous préférez. C'est ce qui est animal, charnel, c'est-à-dire voué à la corruption. C'est ce qui est spirituel, on va y arriver, ce qui est spirituel vient ensuite, c'est-à-dire en deuxième. Verset suivant. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Verset suivant encore, faites défiler, merci les versets. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Verset suivant. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, regardez bien, ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire quoi? La restauration et l'instauration du royaume de Dieu. Et que la corruption, regardez bien ici, la corruption, ce qui est voué à la corruption, ce qui est voué à la destruction, ce qui a connu le péché, ce qui a connu le péché, n'hérite pas de l'incorruptibilité. On va revenir sur cette expression dans quelques minutes. Et voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un instant, d'un clin d'œil, etc. Là, il va revenir sur être changé. Mais la première partie que nous avons lue nous enseigne beaucoup de choses à propos de la résurrection d'entre les morts. La résurrection des justes. Jésus a dit qu'il y aura une résurrection des justes et une résurrection des injustes. Donc, il y aura la première résurrection pour ceux qui seront nés de nouveau et la deuxième résurrection pour les pécheurs. Nous en parlerons bien plus tard. La première résurrection va se produire en phase. En étapes, c'est-à-dire il y a plusieurs moments où des gens vont ressusciter d'entre les morts. La première phase, ça va être lors de l'enlèvement de l'Église. La deuxième phase, ça se passera à la fin de la tribulation. Et la troisième phase, ça se passera à la fin du millénium. Là, nous allons nous intéresser à la première phase de la première résurrection. Et là, Paul est clair. Il nous donne certaines caractéristiques. Il nous montre d'abord que notre corps, si nous sommes morts en Christ, mais là, je m'adresse à des gens qui ne sont pas morts en Christ, puisque vous êtes sur la terre. Rappelez-vous ce qui vous colle sur cette terre, c'est votre corps. Il y a une loi spirituelle qui est claire. C'est que l'homme est un être en trois dimensions. Esprit, âme et corps. Tant que tu es dans trois dimensions, tu es collé sur cette terre. Ce qui retient ton âme et ton esprit de partir, c'est ton corps biologique qui vit. Dieu a mis une loi. À partir du moment où le corps biologique meurt, le cœur s'arrête de battre, que le processus de mort a envahi complètement notre corps, eh bien, il y a une loi spirituelle qui fait que l'esprit plus l'âme d'un être humain part. Quand on est sauvé, ça part au troisième ciel. Par contre, le corps va être enterré. Nous faisons des enterrements. Les enterrements que nous faisons, c'est simplement la semence. La semence. Ton enveloppe, ta maison, reste ici. Et toi, tu pars auprès du Seigneur. Maintenant, les gens qui ne sont pas sauvés, ils descendent en enfer. Et je vous rappelle que je vous ai clairement montré dans d'autres séries d'enseignements que l'enfer est au centre de la terre. Ça paraît très clair dans la parole de Dieu. Donc, c'est une semence dont Dieu se servira. Cette semence va permettre à Dieu de recréer un corps incorruptible. Alors, d'abord, on peut aussi remarquer un certain nombre de choses. Il nous parle de corps terrestre et de corps céleste. En fait, il nous fait clairement la comparaison que la vieille maison va rester sur la terre, que nous revêtirons une nouvelle maison et que là nous pourrons être face à face avec le Seigneur. C'est ce que Paul en gros nous explique ici. Il nous dit il y a un corps terrestre et celui-là il est voué à la destruction. Il va pourrir, c'est un morceau de viande qui pourrira, mais dont Dieu se servira pour nous comme semence pour la prochaine maison qui sera éternelle.
yundi mubiri uzoza.
Vous savez, le ciel n'est pas une finalité éternelle. Il y a beaucoup de gens qui même en prêchent ça d'ailleurs. En disant, oui, nous serons éternellement au ciel. Non, la Bible n'a jamais dit ça. Le ciel, c'est une étape. C'est quand on meurt, Dieu nous envoie au ciel. Là où il y a sa gloire. Mais Dieu va venir instaurer son royaume ici. Pas dans la condition de la terre. La terre a connu le péché. Nous verrons que la Bible, quand elle parle de nouveaux cieux et de nouvelles terres, parle de renouvellement. Et Dieu va recréer, renouveler la surface de la terre en effaçant toute trace du péché. Je vous rappelle une chose. Dieu est clair dans sa parole. La terre, c'est sa propriété. Il viendra y régner avec ses sujets. Et c'est nous. Et c'est ce que Dieu veut faire et fera. C'est ce qu'il avait prévu avec Adam et Ève.
Et
c'est ce qu'il fera en finalité. Donc Dieu nous montre ici que c'est clair qu'il va prendre cette semence de notre corps, de cette viande qui aura pourri, qui deviendra poussière. Tu n'es que poussière, tu redeviendras poussière. C'est ce que Dieu a dit. Alors, il faut entretenir son corps, mais il faut savoir que notre corps, là, celui-là, là, il n'est pas éternel. Mais ne tombez pas dans l'excès inverse. Ne tombez pas dans l'excès inverse de certains chrétiens. Où il y a un bon nombre de chrétiens qui disent de toute façon, moi, je vais mourir. Donc je ne m'occupe pas de mon corps. Non, tant que tu es sur cette terre, rappelle-toi que la parole de Dieu dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a tellement de chrétiens qui négligent tout sous le prétexte de l'éternité. Et ça, la Bible n'a jamais dit de faire ça. La Bible n'a pas dit de mettre notre corps en premier. Mais elle n'a pas dit non plus de mettre notre corps à la poubelle. Parce que si tu veux servir le Seigneur, tu as besoin d'un corps. Quand tu seras au ciel, tu ne pourras plus évangéliser. Tu ne pourras plus prier pour les autres. Tu ne pourras plus servir le Seigneur. Dans le sens de construire le royaume. Tu ne pourras plus le faire, ça. Tu ne pourras plus amener de pécheurs dans le royaume de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de pécheurs dans le ciel. Donc, tant que nous sommes ici, nous avons une destinée. Chaque minute, chaque jour,
on
doit être concentré sur construire le royaume de Dieu. Donc, quand nous allons au ciel, nous sommes en deux dimensions. Et notre salut n'est pas accompli. Il n'est pas ce qu'on appelle consommé. Parce que nous sommes sauvés. Mais le salut se manifeste en trois étapes. Le jour où tu as été sauvé, la première étape, tu l'as passée, c'était la plus importante pour commencer. Quand tu as été sauvé, la première étape, tu l'as passée. La première étape, c'était que Dieu fasse de toi une nouvelle créature dans ton esprit. Ça, c'est la première phase de la manifestation de ton salut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux dire, je suis sauvé. Mais ton salut n'a pas été consommé. C'est-à-dire, tu n'es pas encore ressuscité. Tu n'as pas encore ton corps incorruptible. Tu vas encore passer par des étapes. Donc tu peux dire je suis sauvé, mais ce que tu seras dans le futur n'est pas encore accompli. Ton corps fatigué et qui vieillit jour après jour, il faudra quand même que tu t'en débarrasses un jour. Et ça sera la phase numéro 3. Vous n'aimez pas quand on parle de ça. Pourtant, c'est important. Mais pourtant, c'est important. Nous devons tout le temps avoir nos pensées vers le Seigneur sans oublier que nous avons les pieds sur la terre.
ntitwibagire kandi ko tugifise ibirenge byacu no kwisi.
Mais que ses pieds sur la terre c'est temporaire.
Ariko tukamenye ko kuba no kwisi kwacu ari vyigihe.
C'est comme ça qu'un chrétien doit être.
Nuko umukristo akwiye kubaho.
Prêt à partir à n'importe quel moment.
Yiteguriye kugenda kuva muri uyu mubiri.
Tout en sachant que c'est pas parce qu'il doit être prêt à partir.
Akabazi ko tezo kuba
yitegogenda. Négliger tout le reste.
Hanyuma ngo habe asuzugura.
Ça c'est une erreur.
Oya oya.
Que l'église a souvent commise.
Iyo ni kosa ishengero ryagira rakora.
Donc, tu es en deux dimensions, il faut que tu redeviennes en trois dimensions. Tu es en deux dimensions si tu es au ciel.
Il faut
que tu reviennes en trois dimensions. Parce qu'un être humain a été créé esprit, âme et corps. Les anges, eux, sont sans corps et ils seront pour l'éternité sans corps. Ils sont esprit et âme. Alors, autre chose que ce verset nous enseigne, il nous parle d'éclat.
Et
il dit, bon, il y a des corps terrestres et il y a des corps célestes. Et il compare ce qu'on peut voir dans le ciel, ce qui brille dans le ciel. Et il dit aussi, hey, dans les corps célestes, il y a aussi des différences. Ils sont dans le ciel. Mais il brille de façon différente. Nous reviendrons sur ce sujet dans le tribunal de Christ, le tribunal de récompense. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons tirer d'ici. Alors il nous dit clairement, au départ c'est le corps naturel. Il est semé corps naturel, verset 44. Il est semé corps naturel et on ressuscite corps spirituel. Alors, ça veut bien dire une chose. Aujourd'hui, tu as un corps naturel ou animal dans l'autre traduction que nous avons
vue.
Et il dit, en fait, le corps naturel ou animal, eh bien, c'est quoi? C'est le corps corruptible. Par contre, il parle du corps spirituel. Du corps incorruptible. Alors, que veut dire incorruptible? Incorruptible a deux sens. Et ça, c'est très important à comprendre. Ce mot incorruptible referme deux choses importantes. D'abord, ça sera un corps immortel.
Alors,
faites très attention à la traduction ici. Immortel. Ce ne sera pas un corps non mortel. Par exemple, Adam avait un corps non mortel. Ça veut dire que son corps ne pouvait pas mourir à condition qu'il ne pêche pas. Un corps non mortel, c'est un corps qui ne peut pas mourir tant qu'il n'y a pas de péché. Adam, lui, normalement, aurait dû être encore là aujourd'hui.
Si,
condition, si.
Il
n'avait pas péché. Mais quand il a péché, il est mort spirituellement, qui a fait naître en lui le processus de mort physique. Lorsqu'Adam est mort spirituellement, qu'il était séparé de la vie de Dieu parce qu'il a péché, alors, le processus de mort physique est entré en lui. Et là, Adam est devenu de plus en plus vieux. Et à l'âge de 930 ans, Adam est mort. Son corps était usé et c'était fini. Donc Adam avait un corps non mortel. Il n'avait pas un corps immortel. Nous aurons un corps immortel. C'est-à-dire, notre corps ne pourra jamais plus mourir. Merci Seigneur. Vous ne vieillirez plus, nous ne vieillirons plus. Amen.
Amen.
Nous pourrons rester toujours beaux et jeunes. Donc ne t'inquiète point. Ça viendra un jour. Le jour où Jésus reviendra. Ça sera ton jour. Tout simplement. Les jeunes, eux, ils se disent, oh, c'est pas grave. Les vieux, ils disent, j'aimerais bien être encore jeune. Mais c'est pas grave. Heureusement que tu as reçu Jésus, c'était le plus important. Donc, corps immortel. Et vous avez bien compris que l'aspect de l'immortalité est lié au fait de ne plus pouvoir pécher. C'est ça qui est important à comprendre. Notre corps n'aura plus la capacité à pécher. Donc le fait qu'il ne pourra plus pécher et que Dieu nous aura recréé une nouvelle enveloppe, eh bien ça aura pour conséquence l'immortalité. C'est pour ça que la Bible nous parle de vie éternelle. Mais le ciel est un passage. La terre est un passage.
Ici,
donc ce que Jésus va faire d'abord, c'est faire ressusciter d'entre les morts tous ceux qui sont au troisième ciel. Supposez 500 millions de rachetés qui sont au ciel aujourd'hui. Sur l'ordre de Dieu, vont redescendre, revêtir ce corps incorruptible. Et la Bible nous dit aussi que nous serons transformés. Dans 1 Corinthiens 15, 52, il nous dit nous serons changés. Ça veut dire littéralement être transformé en quelque chose d'autre, d'une autre nature. Donc, comment ça va se passer? J'en ai aucune idée. Absolument aucune idée. Et d'un seul coup, tu vas être là et ton corps va. Et tu vas revêtir un nouveau corps. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons revêtir l'incorruptibilité. Finalement, l'étape de la consommation du salut va se faire à ce moment-là. La première étape, je vous rappelle, c'est la nouvelle naissance. La deuxième étape, c'est de grandir dans la connaissance de Dieu. La troisième étape, c'est avoir un corps incorruptible. Donc, ceux qui sont morts en Christ descendent du troisième ciel, Dieu les ressuscite, leur donne un corps incorruptible, et nous les vivants, nous sommes transformés en un clin d'œil. Tout se fait comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Après, nous allons, comme dit Thessalonicien, nous l'avons vu. Dans 1 Thessalonicien 4, il est dit que nous allons être ensemble avec le Seigneur. Dans les
airs.
Ça nous montre que Jésus ne va pas revenir et toucher les pieds sur la terre. Nous étudierons qu'il y a une prophétie de Zacharie qui nous montre que dans le deuxième retour de Jésus, quand il va revenir pour Israël, là il va venir et physiquement toucher les pieds sur la terre. Là Jésus va être dans le ciel et seulement ceux qui le connaissent, ceux qui sont nés de nouveau, vont le voir. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Lorsque cette trompette va sonner du ciel, que Jésus va revenir, qu'il va être suspendu dans les airs, d'un seul coup, les morts en Christ vont ressusciter. Nous les vivants, nous sommes transformés. Et nous allons voir le Seigneur, nous. Les inconvertis ne le verront
pas.
Jésus revient la première fois pour son église.
Yesu azubwa mbere ku gishengero ryiwe.
Il ne touche pas les pieds sur la terre.
Nahonyoza ibirenge byiwe hano ku isi.
Et seuls ceux qui sont sauvés le voient.
Abakijwe bonye nibo bazomubona.
Et nous allons être dans les airs, réunis avec le Seigneur.
Duge twese kumusanganira mu bicu.
Il va y avoir du monde dans les airs.
Oh,
imaginez-vous un milliard de personnes.
Aha mu bicu ibaze umuriyari diwa abantu hejuru mu bicu.
Je ne sais pas si les inconvertis vont voir ça. Par contre, ils vont voir quelque chose. C'est qu'il y a 500 millions de tombes qui vont être ouvertes. Il y en aura plus d'ici là. Et ils vont voir qu'il y a, supposons si c'était aujourd'hui, 500 millions de gens qui ont disparu de la terre. Vous savez, la police s'alerte quand il y a une disparition. Mais là, imaginez-vous ce qui va se passer sur la terre. Ah, vous savez, l'enlèvement de l'église va être un choc gigantesque pour ce monde. Parce qu'ils en ont entendu parler. Ils ont rigolé, ils se sont moqués. Mais quand ça va se passer, ça va être un choc. Nous étudierons les réactions du diable à ce moment-là et les réactions aussi des gens. Ça va être très intéressant. Mais sachez une chose, quand il va y avoir l'enlèvement de l'église, on va en parler partout. Les gens vont être dans la confusion. Imaginez-vous aujourd'hui, il peut se passer n'importe quel événement dans ce monde. En moins d'un quart d'heure, le monde peut être prévenu dans sa totalité.
Il
s'est passé tel ou tel événement sur la terre. Nous avons des moyens médiatiques depuis quelques années seulement où on est capable en quelques minutes d'avoir une information sur la terre, quelque chose qui se produit, un événement quelconque. Et d'un seul coup, il peut y avoir des milliards de personnes qui peuvent être mises au courant. On est dans des temps spéciaux, frères et sœurs. Ce sont des temps très très particuliers. Alors, quelles sont les propriétés de ce corps? Nous avons vu d'abord que ce sera un corps incorruptible, ça on est bien d'accord. Mais pas seulement. Apparemment, quand Jésus va ressusciter d'entre les morts, après, si vous étudiez les évangiles, on va regarder Jean chapitre 20, eh bien, ce corps aura certaines propriétés. Des propriétés un peu particulières. Et dans Jean chapitre 20, il va se passer quelque chose. Quand vous étudiez la parole de Dieu, vous verrez que tant que Jésus n'est pas ni mort ni ressuscité, Jésus vit jour après jour au milieu de ses disciples. Lorsque Jésus va ressusciter, qu'il aura son corps incorruptible, Jésus est le premier-né d'entre les morts. Jésus est en tout le premier. C'est ce que la parole de Dieu nous montre. Ce qu'il est aujourd'hui, tu le seras. Il nous a créés pour que nous puissions et recréés pour que nous puissions passer par les étapes
par lesquelles
il est passé. Nous avons été identifiés en lui par sa mort et sa résurrection. Et nous revêtirons un corps incorruptible que Jésus a reçu à sa résurrection. Et ce qui est très intéressant, si vous étudiez bien l'Écriture, dans les évangiles, si vous prenez tous les évangiles en parallèle, à partir du moment où Jésus est ressuscité d'entre les morts, Jésus ne vit plus au jour le jour avec ses disciples. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il apparaît et il disparaît. C'est très bien pour les parties de cache-cache. Alors, ici, au chapitre 20, il est dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Donc, tout était fermé. par crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Jean chapitre 20, verset 19. Donc Jésus, ici, en fait, il y a tout est fermé. La maison est fermée. Ils se sont barricadés parce que les disciples ont peur. Jésus est mort. Il est ressuscité. Mais on ne sait pas où il est. Pourtant, on l'avait arrêté. Donc, s'il est encore vivant, il faut l'attraper. Le problème, c'est qu'il est imprenable. Mais, vous savez, c'est toujours comme ça. Quand un leader meurt, qu'il a été condamné,
en
général, les premières personnes qu'on va chercher après lui, c'est qui ? Son entourage proche. Donc les disciples, ils devaient claquer des dents ici. En disant, les prochains, c'est nous les gars. On n'a pas de rapport, mais je pense que Pierre a dû faire des commentaires. Parce que ça se passe toujours comme ça. Quand un leader est condamné à mort, on va chercher ceux qui sont autour. Et là, les disciples étaient barricadés. Et Jésus, d'un seul coup, paf, il apparaît au milieu d'eux. Il est là, au milieu d'eux. Il leur parle. Et après, hop, il va disparaître. Et après, verset 28, la Bible va nous dire, Jésus, huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, encore une fois. Et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous, etc., etc. Et en fait, Jésus, si vous étudiez bien la parole de Dieu, il va apparaître, disparaître et disparaître. Vous allez me dire, oui, mais le mot apparaître n'est pas dans ce texte. Oui, c'est vrai. Ben, regardez
1 Corinthiens 15.
Il est dit, je vous ai transmis, verset 3, avant tout ce que j'avais aussi reçu, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, il a été vu ou il est apparu à Cephas, puis par les douze, ensuite il a été vu ou il est apparu par plus de 500 frères à la fois. Si vous étudiez différents textes que vous mettez en parallèle, ah, on va regarder maintenant Jean chapitre 21, verset 1. Il est dit, après cela, verset 1, Jean 21, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Le verbe manifester en grec, ça veut dire apparaître. Apparaître. Il apparaît, il disparaît. Il se fait montrer à certains disciples. Il reste quelque temps avec eux et il disparaît. Puis il apparaît. Il apparaît au milieu d'une maison qui est fermée. Donc il faut que vous compreniez une chose. Ce corps que nous allons revêtir sera en parfaite harmonie entre le monde spirituel, divin bien sûr, et le monde matériel, naturel. Aujourd'hui, par exemple, tu
ne
peux pas partir avec ton corps et monter au troisième ciel. Pour monter au troisième ciel, tu dois mourir. Ou alors, il doit y avoir un miracle que Dieu va faire qui s'appelle être ravi en esprit. Mais ce ne sera pas permanent. C'est une expérience extrêmement rare que Dieu donne à certaines personnes. Nous avons parlé des visions. Entre autres, dans 2 Corinthiens chapitre 12, c'est ce que Paul a vécu. Donc ton corps ne peut pas monter et descendre. Par contre, la Bible nous dit que Jésus est monté au ciel. Et après, il est redescendu. Puis il est remonté. Après, il est redescendu. Il y a plusieurs passages de la parole de Dieu après la résurrection qui nous le montrent. Lisez l'épître aux Hébreux, vous verrez, Jésus est venu une fois pour toutes offrir son sang pour sceller notre alliance. Et après, il est apparu sur la terre. Et après, il a disparu. Etc.
N'ibindi.
Pour clôturer, pour ceux qui aiment bien manger,
Avec
votre corps, parce qu'il y a des chrétiens qui ont des questions, ils disent, oui, mais est-ce qu'on pourra encore manger? Ego mugenzi.
Ego chan.
Oui, mon cher ami.
Ego tuzoje.
Si vous lisez chapitre 21, vous verrez que Jésus a partagé un beau repas avec Pierre. Et vous pourrez même manger du poisson. Jésus a mangé avec ses disciples dans Jean chapitre 21. Pourtant, il était déjà ressuscité, il avait son corps incorruptible. Et ça, c'est une étape indispensable. Ça fait partie de la restauration du royaume de Dieu. Nous avons été sauvés. La Bible nous dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est-à-dire que notre salut n'a pas été encore consommé complètement. Parce que tu es sauvé, mais pour l'instant ton corps t'empêche de voir ton Seigneur. C'est pour ça d'ailleurs que tu marches par la foi aujourd'hui. Tu marches par la foi parce que tu dois croire la parole. Mais avec ton corps, tu ne peux pas voir le monde spirituel. Le monde spirituel et le monde matériel seront parfaitement réconciliés quand Dieu viendra instaurer son royaume ici. Entre temps, il y a encore cette immense bataille entre le monde naturel et le monde spirituel. Mais ce sera une réconciliation totale entre ces deux mondes. Et ça, c'est important à comprendre. Maintenant, la prochaine fois, je vous montrerai cette explication du corps céleste qui a des éclats différents. Et nous parlerons de la deuxième fondation dont nous avons besoin pour continuer dans l'Apocalypse, qui est le tribunal de récompense, le tribunal de Christ. Et ce que la Bible en dit, et les conséquences que ça devra avoir sur nous. Et ensuite, on parlera des 70 semaines d'années de
Daniel
pour voir vraiment l'image globale de la fin des temps. Et après, nous continuerons justement dans cette dernière semaine d'année qui est la tribulation au travers de l'Apocalypse. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.